12h37 jusqu'à 13h en direct. Sur notre antenne, les rendez-vous de l'été avec la braderie de l'association Côte à Côte. C'est demain, mercredi, à la Barre de Mont. Alors pour vos achats, vêtements, jeux, livres, vaisselle et articles de puériculture, contribuez à financer des projets d'approvisionnement en eau et éducatif à Djibouti. Pour en parler, votre invitée Juliette aujourd'hui, Karine Adelao.
Merci Thierry. Effectivement, aujourd'hui, nous recevons Karine Adelao Ali, qui est la trésorière de Côte à Côte. Côte à Côte qui organise demain à la Barre de Mont un grand événement, leur braderie annuelle qui se déroule donc là-bas. Karine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc la trésorière de l'association locale de solidarité internationale Côte à Côte qui organise plusieurs braderies par an. Cette année, il y en a eu une en juillet, il y en a une demain. Et il y en aura une prochaine le 11 septembre, toujours au même endroit et à la même heure. Pouvez-vous nous rappeler les horaires et le lieu ?
Alors la braderie a donc lieu au pont Angelier, à la Barre de Mont, et c'est de 10h jusqu'à 19h.
Et pouvez-vous nous expliquer le nom de votre association Côte à Côte ? Quelle est la signification et pourquoi avoir choisi ce nom ?
Alors donc déjà je vais parler de l'objectif de l'association Côte à Côte qui est de développer des relations d'échange et de solidarité avec Djibouti, et on a choisi Côte à Côte parce que ici on est sur le bord de la côte et le village, enfin la région de Tadjoura avec lequel on travaille à Djibouti est aussi en bord de côte de la mer Rouge.
Et donc est-ce qu'il y a un accès à la mer Rouge ou c'est assez éloigné de la mer ?
Il y a un accès à la mer Rouge et aussi surtout au golfe de Tadjoura qui est relié directement à la mer Rouge. Donc c'était ouais, le rapprochement de ces deux côtes et puis d'être côte à côte, à côté aussi en fait.
Ok, oui, ça fait un double jeu de mots.
Voilà.
Alors on ne connaît pas forcément bien tous les pays d'Afrique. Pouvez-vous nous parler un peu de Djibouti, où ce pays est situé, nous parler de quelques-unes des caractéristiques linguistiques et locales de ce pays ?
Alors donc comme je vous disais, c'est un pays qui est au bord de la mer Rouge. Il est frontalier avec l'Éthiopie, l'Érythrée et la Somalie, et juste en face du Yémen. La capitale c'est Djibouti et le pays c'est la République de Djibouti. C'est un pays qui est composé de deux communautés majoritaires, on va dire, les Afars et les Somaliens, et il y a aussi des Arabes. La langue du pays c'est le français, la langue officielle, et la scolarité est en français.
Est-ce qu'il y a des dialectes aussi qui sont pratiqués encore
au Djibouti ? On ne va pas parler de dialectes, parce que le dialecte, je trouve que c'est un terme qui est péjoratif. Ce sont des langues, en fait. Donc, il y a les Afars parlent l'Afar, et puis les Somaliens parlent le Somali.
Est-ce que vous pouvez dire quelques mots en Afar, par exemple, ou c'est une langue que vous ne maîtrisez pas ?
Marissé, ça veut dire bonjour.
Marissé ?
Marissé.
Merci. Et pourquoi avez-vous décidé de créer un projet de coopération avec Djibouti alors ?
Donc cette association a été créée en 2007. Bon, d'une part, c'est que mon mari est de Djibouti et j'y ai travaillé pendant quelques années où j'ai enseigné là-bas au lycée de Tadjoura, et c'est suite à cette expérience, quand on est rentré en France, qu'on a décidé de monter cette association.
Est-ce qu'il y avait une flamme, une motivation particulière derrière, ou c'était une volonté d'aider, ou une volonté de garder un contact avec le pays de...
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'était de garder un contact et puis d'aider avec nos moyens, on va dire.
Et vous avez évoqué plusieurs fois la région de Tadjoura. Géographiquement, où côte à côte intervient-elle dans cette région
région de Tadjoura, c'est au nord de Djibouti. Donc c'est les Afars. Nous, on travaille avec la communauté Afar. Et on travaille en particulier avec le nord de cette région, qui est la ville de Assagela.
Et sur quel type de projet collaborez-vous avec le village d'Assagela ?
Il y en a plusieurs. Il y a des projets qu'on mène chaque année au niveau éducatif. Donc là, ils sont assez variés. On a pu, il y a quelques années, on avait amené parfois des baskets pour les élèves pour le sport. On a amené des sacs à dos. On a amené des annales. Des calculatrices aussi, c'est arrivé. Et là, depuis ces dernières années, comme on a un peu plus de mal on y va moins souvent à ramener le matériel là-bas. Parce qu'après, ce qui est important aussi, c'est que... on cherche vraiment à travailler en direct. Il n'y a pas d'intermédiaire en fait entre nous et les affaires qui sont là-bas. C'est nous qui emmenons directement la marchandise et on remet directement aux élèves ou aux personnes concernées. Donc là, ces dernières années, on a plus de difficultés à amener la marchandise là-bas. Donc on envoie de l'argent en fait pour payer les frais de scolarité, l'allocation des manuels scolaires pour des lycéens et des collégiens qui sont issus de cette région en fait de Assagela.
C'est quand même super compliqué de affréter des avions, j'imagine, ou des camions.
Non, on n'en est pas à ce niveau-là. Quand on emmenait des calculatrices, c'était dans nos valises, en fait.
Ah, d'accord.
Donc, c'est pour ça. Non, c'est un autre niveau, en fait. C'est une petite association. On travaille avec nos moyens, avec l'argent qu'on gagne. On n'a pas d'aide.
Oui, l'apport est surtout financier, le soutien est surtout financier.
Voilà. Et c'est vraiment un autre niveau, en fait.
Je comprends. Et sur l'approvisionnement en eau et la récupération des eaux de pluie, à ce niveau, vous êtes beaucoup intervenu, il me semble, ces dernières années, parce que c'est un enjeu considérable. Pouvez-vous nous dire l'enjeu que cela constitue pour ce peuple
Donc,
nomade.
C'est un pays qui est très très sec, en fait, Djibouti. Il pleut vraiment pas beaucoup. Et donc, le côté éducatif, c'est une action qu'on mène chaque année, en fait. On fait quelque chose. Par contre, le projet en eau, ça nécessite beaucoup plus d'investissements financiers. Donc ça, c'est des projets. Chaque année, on met une partie un peu d'argent de côté. Et quand on a suffisamment d'argent, on voit avec des entreprises sur place, avec les chefs locaux, ce qu'ils ont besoin. Et là, on finance. Donc on a financé en 2016 une citerne enfouie. Et on en a financé une autre cette année. Là, c'est une citerne pour récupérer les eaux d'un forage, en fait. Pour pouvoir avoir de l'eau à disposition pour les populations qui vivent à côté. Ça, c'est des gros projets. C'est des projets qui sont aux alentours de 10 000 euros. Donc forcément, on met quelques années avant de récupérer l'argent pour pouvoir financer ce type de projet.
Et jusque-là, il y avait l'accès à l'eau potable dans ce village était difficile.
Oui, c'était... Quand il a plu, il y a de l'eau à côté, mais dès qu'il ne pleut pas pendant plusieurs mois, il faut forcément aller beaucoup plus loin pour chercher de l'eau. Donc là, le fait d'avoir des citernes de récupération d'eau, ça leur permet d'être autonomes et d'avoir de l'eau plus proche, plus longtemps, en fait, pour l'utilisation domestique et pour les animaux.
Oui, ça facilite grandement la vie quotidienne, tout simplement.
Ça c'est sûr. Quoi.
À Assagela, vous m'avez dit que c'était un village rural.
Oui.
Pouvez-vous nous toucher quelques mots sur ses habitants ?
Donc c'est des affaires qui sont là-bas, c'est des populations d'éleveurs. À Assagela, c'est un petit village, donc les élèves de cette région peuvent aller à l'école jusqu'en CM2. Donc je ne sais pas ce que je peux dire d'autre.
Vous vous y êtes rendu récemment ou il y a quelque temps, j'imagine, à cause de la situation sanitaire.
Oui. Moi, j'y suis pas allée depuis plusieurs années. Je sais plus, depuis 5-6 ans peut-être. Mon mari y va plus régulièrement. Mais là, ça fait 2 ans non plus qu'il n'y a pas été.
Ok. Tout à l'heure, hors antenne, on a évoqué l'existence du lac Assal. Donc, ce n'est pas du tout dans la région où est situé le village. Le lac Assal, c'est un lac à Djibouti qui est situé dans le désert de Dakanil, dans un cratère, vous m'avez dit. Et il a la particularité d'être le lac le plus salé au monde. Est-ce que le village d'Assagela est situé dans une contrée aride et infertile comme le désert de Dakanil ? Quelle est la différence de climat et de terrain entre les deux.
Le lac Assal se trouve vraiment dans la partie la plus chaude, je pense, du pays. Il est situé sous le niveau de la mer et c'est vraiment un endroit qui est très très hostile. Il n'y a vraiment pas de végétation, il n'y a que des cailloux partout et il n'y a pas beaucoup de monde qui vivent par ici. Donc le lac Assal se trouve sur le territoire des Afars, mais la région de Tadjoura et Assagela, c'est aride, mais pas autant que le lac Assal.
C'est une région dans laquelle les Afars peuvent s'adonner à l'élevage ?
Oui, élevage de chèvres en majorité et des chameaux, enfin des dromadaires.
Ok, et donc c'est leur source de revenus, première.
Oui.
Merci. Donc, dans cette première partie d'émission, nous avons abordé votre projet et également le pays dans lequel il se situe. On espère que maintenant l'approvisionnement en eau est suffisant dans le village de Assagela. On fait une pause musicale, Thierry. Il me semble c'est l'heure de la pause musicale.
Avec un tout nouveau titre signé, un nouvel artiste de la scène française. Écoutez, découvrez, c'est sur Neuve. Il s'appelle Stéphane. Facile à retenir. Un très beau titre. Ça s'appelle Douleur, je fuis, nouveauté neuve.
Tu m'as dit avec assurance, c'était ta dernière chance. J'ai pensé aux aspects pratiques, les vacances à Dubrovnik. Deux jours et demi, j'avais toujours pas saisi. On peut pas me quitter, donc ça veut pas rentrer. Joueur je suis, douleur je fuis, je fus j'étais. Si tu revenais, joueur j'étais, douleur j'y suis, je fuis je t'ai, je ne réponds plus. Quand tes affaires tu as repris, petit placard est devenu grand. La chambre et le quartier, je fuis, je m'oublie dans le petit écran. J'ai une boule au ventre à chaque fois que je rentre par l'arrière de la maison. Se souvient-elle de ton nom? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma carte. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma carte. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? Joueur, je suis, à douleur, je fuis, je fus, j'étais, et si tu revenais? Joueur, j'étais mal préparé. À la gare, je suis resté sur le quai. Sifflet de ton train qui part, frisson inexpliqué. Si j'avais un message à remettre entre tes mains ouvertes, ça dirait j'ai changé cet été, mais tu pourras pas en profiter. C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma gare. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma gare. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? Ce n'est plus joueur, je fus, douleur remue, envie d'un puits, oh, tout ce que je fuis. Joueur, je suis, douleur, je fuis. Joueur, je fus, douleur remue. C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde, faut-il ce genre de destin? Se regarde, c'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde, foutis ce genre de destin.
Tout nouveau à l'instant, c'est beau, hein, c'était Stéphane, l'artiste, avec ce titre Douleur, je fuis sur Neuve. Jusqu'à 13h, la suite sur Neuve, donc les rendez-vous de l'été avec vous, Juliette, et aujourd'hui votre invitée Karine Adlao. Voilà, je n'ai pas du tout écorché votre nom, Karine, désolé pour tout à l'heure, de l'association donc Côte à Côte.
Bravo Thierry.
Merci. Mais...
donc Karine, vous êtes trésorière de l'association Côte à Côte, qui tient sa grande braderie demain à la Bardemont. On voulait évoquer avec vous, dans cette deuxième partie de l'émission, tout le travail qui a été effectué en amont par les bénévoles de l'association. Est-ce que vous pouvez nous parler de ceux qui sont avec vous dans l'association, à vos côtés tous les jours?
Oui, donc on a une équipe de choc de bénévoles qui s'occupe de trier tous les dons qui nous sont apportés, de les trier par taille, par âge, par catégorie, de voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, de trier l'hiver de l'été. Donc ça leur prend beaucoup de temps. Elles viennent deux fois par semaine, pendant on va dire un mois et demi, deux mois avant la braderie. Donc là elles sont cinq, il y a Annie, Lucette, Jeanne, Sylvaine et Martine. Et puis après il y a d'autres bénévoles qui viennent se greffer sur des moments plus ponctuel, ben quand on a les braderies, parce qu'on a pas mal de bénévoles qui viennent aussi de l'extérieur, donc qui viennent filer un coup de main vraiment sur l'événementiel, sur le jour J.
Ok, donc demain, tout le monde est dans les starting blocks pour demain, j'imagine.
Oui, en fait, tout est prêt. Parce que jusqu'à cette année, on organisait seulement deux braderies dans l'année, une au printemps et une à l'automne pendant trois jours. Et aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a changé de lieu pendant longtemps. On faisait ça au gymnase de Fromentine. Et là, depuis l'année dernière, à cause des travaux, on n'a pas pu accéder à cette salle. Donc, on a changé de lieu. On fait ça donc maintenant au lieu dit le Pont Angelier à la Bardemont. Donc, comme le local nous appartient, là, on a mis en place et on a tout laissé en place. Donc, on s'est dit, c'est quand même dommage de ne pas faire profiter les acheteurs. Donc, on a décidé d'ouvrir trois dates cet été pour essayer de liquider le stock. Donc, qui est énorme et ça arrive toujours.
Et donc, quels sont les articles que vous mettez en vente et sous quelle forme sont-ils vendus?
Alors, donc, c'est des vêtements. Donc, il y a enfants et adultes. Il y a des chaussures. Il y a du linge de maison. Il y a de la vaisselle, des bibelots et des jouets et du matériel de puériculture. Donc, tout ce qui est objets de vaisselle, les jeux, c'est vendu à la pièce. Ils sont étiquetés à des prix défiant toute concurrence. Et en ce qui concerne le textile, les vêtements et l'ameublement, c'est vendu au sac. Donc, on propose à l'entrée aux personnes deux types de sacs, deux tailles de sacs. Il y a un sac qui est à 10 euros et un sac qui est à 5 euros. Donc, on le remplit et...
Et ce format de distribution, chaque année, rencontre un certain succès, j'imagine?
C'est nouveau, en fait, ce format de distribution. Avant, on fonctionnait différemment, mais oui, ça plaît, en fait, parce que du coup, c'est vraiment très intéressant pour tout le monde.
Et est-ce que les gens qui viennent à la braderie se sentent un peu concernés par vos projets, heureux de pouvoir y contribuer, même presque symboliquement?
Il y a de tout, en fait. Il y a des gens qui sont concernés, il y a beaucoup de gens qui nous font des petits dons, en fait, au passage en caisse, et puis t'en as d'autres qui viennent juste pour acheter, c'est tout. J'ai oublié, on a aussi des livres.
Okay.
Il y a un beau rayon livres.
Vous savez quel type de livres? Des livres récents, anciens, jeunesse?
Il y a de tout. Il y a jeunesse, donc on essaye de les classer eux aussi. Donc il y a une partie roman poche, une partie roman livre. Et puis après, bon, il y a un rayon histoire, il y a un rayon santé, jardin, tout ce qui est comme dans une librairie. Et il y a un rayon jeunesse aussi.
Est-ce qu'à Djibouti, on a déjà entendu parler de la Vendée?
Oui, sûrement par nous.
Côte à côte.
Ouais.
Vous avez vécu à Djibouti plusieurs années. Vous m'avez dit comment était votre vie là-bas et depuis combien de temps êtes-vous revenu?
Je suis revenu en 2005. J'y ai vécu pendant 3 ans. Et donc j'ai enseigné au lycée la science économie et sociale, au lycée, au terminal et aux premières. La vie, elle était, je sais pas, normale, quoi. En fait, on vivait rythme de Djibouti, au rythme de Tadjoura.
C'était au lycée français ou
au lycée d'État.
Ah oui, très bien. Et le but de vos braderies, c'est de gagner de l'argent en vendant les articles,
oui.
Afin de financer vos projets de solidarité. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le volet éducatif de votre projet? Quel est-elle est-ce qu'on peut en reparler un peu?
Oui, il n'y a pas de souci. Donc là, on finance les manuels scolaires parce qu'à Djibouti, les manuels scolaires sont payants à partir du collège-lycée. Donc si les élèves ne peuvent pas payer ces manuels scolaires, ils sont au bout d'un moment exclus de l'établissement. Puis bon, c'est difficile aussi de travailler quand on n'a pas les manuels. Donc là, depuis, on va dire, 5-6 ans, voire peut-être un peu plus, on paye les frais de manuels pour à peu près entre 15 et 20 élèves, ça dépend des années, qui sont donc au collège et au lycée à Tadjoura. Et c'est des élèves qui viennent de cette région du nord de Hassagela.
Est-ce que certains des étudiants du village auxquels vous avez apporté votre aide sont allés à l'université, par exemple?
Là, ça commence, en fait. On a les premiers élèves qui sont à l'université. Donc là, c'est plus des financements de manuels. On paye l'inscription à l'université. Je crois que c'est depuis l'année dernière ou l'année d'avant, les premiers sont rentrés à l'université.
Super.
Donc c'est des enfants qu'on suit là, déjà depuis peut-être l'entrée en sixième jusqu'à maintenant l'entrée à l'université.
Et pourquoi est-ce si difficile pour les enfants de Hassagela de se payer des manuels scolaires?
Ça coûte cher, en fait. Et puis, ce sont des gens qui sont nomades et qui n'ont pas de revenus, en fait. Ils vivent de leur troupeau, de leur viande, de leur lait, mais ils n'ont pas de revenus fixes, en fait. Donc, ce qui fait que ça fait un certain coût. Je ne peux pas vous dire en pourcentage de ce qu'ils gagnent, ce que ça peut coûter les manuels scolaires, mais c'est beaucoup. Quand il y a plusieurs enfants à envoyer à l'école, c'est pas évident, en fait.
Et ils habitent dans un village, mais vous avez dit plusieurs fois qu'ils étaient nomades.
Oui, donc c'est une culture nomade qui s'est plus ou moins sédentarisée. Donc les enfants, une fois qu'ils ont validé leur primaire, qu'ils ont eu leur entrée en sixième, ils doivent partir, en fait, à la première ville qui est à côté, qui est Tadjoura, où il y a le collège. Donc là, les enfants, souvent, sont logés dans des familles, dans des cousins, des tantes, le temps de leur scolarité.
Donc c'est un peuple nomade, sédentarisé,
oui.
Ou en cours de sédentarisation?
Oui, plus ou moins sédentarisé. Bon, Il y a toujours des troupeaux, donc les troupeaux, il faut quand même les amener où il y a à manger et où il y a à boire. Donc mais les villages restent fixes quand même. Pas comme ça a changé, je pense. Par rapport, moi, j'ai pas connu vraiment ce côté nomade en fait, à démonter tout le village et à partir ailleurs.
Eh bien, on en sait beaucoup plus grâce à vous sur Djibouti, sur le village de... Pouvez-vous rappeler le nom de ma cousine Mécha?
Assagela.
Assagela. Et surtout sur la nature, le projet, les projets de votre association. Et la braderie de demain va permettre, va permettre à ces projets de pouvoir se poursuivre dans les meilleures conditions. Oui. On vous souhaite le meilleur pour votre association.
Merci.
Et on est tout à fait admirable de votre travail.
Merci.
Et à demain, donc à la barre de Mont.
À demain.
Toute la journée, hein?
Oui, toute la journée, il n'y a pas de pause. Ouais.
Avec le soleil en plus.
En plus.
Il va y avoir du monde. Parfait. Merci Juliette. À demain.
Merci.
Demain, 12h35, dans les rendez-vous de l'été.
Oui, encore un petit suspense sur l'invité. Ah. Il sera maintenu jusqu'à demain.
D'accord, ok. Elle ne sait pas, c'est pour ça, je pense. À demain.
Allez, c'est voici. En négociation.
Voici Gaëtan Roussel sur Love. Et puis l'émission arrive en podcast dans deux petites minutes à 9fm.fr.